Well, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand.
Sur la route.
Yes, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand.
Émilie Glory
et Simon Martin.
Lord, I really miss my baby. She's in some foreign land.
Charles Baudelaire rapporte avoir entendu de la bouche d'un cartographe désirer une chose, en rêver, est parfois plus important que de la réaliser. Il en va ainsi des voyages qui naissent dans les cœurs bien avant de se concrétiser. Mais une fois la décision prise de partir pour de bon, une fois les billets achetés, le réservoir d'essence rempli à bord, comme tous ces moyens de locomotion paraissent vulgaires, lourdeaux et bruyants face aux rêveries qui les précédèrent. Faire le tour du monde sur le dos d'une libellule, le nez plongé dans une carte routière, est un voyage bien différent de ceux que vous avez sans doute l'habitude de faire. Rien de pire que les habitudes, croyez-moi, alors préparez-vous et montez dans le premier rêve qui passe, en partance pour l'Irlande.
Comme les étoiles dans le ciel, les routes qui sillonnent la Terre sont numérotées. La route que nous allons explorer aujourd'hui est l'A2. Elle mesure 395 km de long et emprunte un itinéraire longeant la côte nord-est de l'Irlande du Nord. L'A2 débute à Newry, dans le comté de Down, à 50 km de Belfast et à 100 km de Dublin. Remonte le long de la mer d'Irlande pour venir mourir aux portes de Derry, deuxième ville du pays, située à une centaine de kilomètres de Belfast et à 230 km de Dublin.
Je suis le chanteur des montagnes, la voix dont rêve le paysan, la clameur du vent sur la colline boisée, le saut du poisson dans le courant. Le repos et l'amour je chante, le cairn sur la crête de la montagne, la câline dans les bras de son ami, l'enfant qui tète le sein de sa mère. La beauté et la paix je chante, le feu dans l'âtre à découvert, la caliare filant à son rouet, la charrue dans la terre défoncée. Les douleurs de l'enfantement je chante, la jeune épousée en couche, l'homme sombre qui polit ses vers, la nuit de veille dans l'étable où la brebis agnelle. Le chagrin et la mort je chante, la rouille qui s'abat sur le blé, le pêcheur disparu dans le lore de montagne, la plainte vers la bouche du matin. Nulle autre vie je ne chante, car je suis issu de la lignée qui a labouré les terres accidentées pour se nourrir et qui a fait son nid dans les rochers.
Near Banbridge down in the county down one evening last July, down a boring green came a sweet canine and she smiled as she passed me by. She looked so neat in her two bare feet and the sheen in her nut brown hair. Such a coaxing elf had to shake myself to make sure I was standing there. From Mantry Bay down to Derrycare, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair canine that I met in the county down. As she onwards sped and I shook me head and I gazed at the feeling queer. And I says I to a passerby, who's your one with the nut brown hair? He smiled at me and with pride and says he, she's the gem of old Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Ban and the star of the county town. From Mantry Bay to Derrycade, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair colleen that I met in the county down. She'd a soft brown eye and a look so sly and a smile like a rose in June. And you held each knot in her auburn throat as she lilted laments and tunes. At the padded and down she'd be in a trance as she skipped through a jig or a wheel. When her eyes she'd roll as she lift your soul and your heart she would lightly steal. From Bantry Bay down to Derrycade, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair colleen that I met in the county down. The harvest fair should be surely there, and I'll dress in me Sunday clothes. Wet me hat got right and me shoes shone bright for a smile from the nut brown rose. No horse I'll yoke, no pipe I'll smoke, go to the rest of me plow turn brown. And a smile bright by my own fireside, it's the star of the county down. From Bantry Bay down to Derrycade, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair body that I met in the county down.
so sly and a smile like a rose in June. And your helmet not in her auburn throat, she led to the men's and tunes. By the Patterton down she be in her trance, and she skipped through a jig or a ring. When her eyes she'd roll, and she'd lift your soul, and your heart she would lightly steal. Coax an elf had to shake myself to make sure I was standing there. From Bantry Bay down to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair colleen that I met in the county down. From Bantry Bay down to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair colleen that I met in the county down. From Bantry Bay down to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a fair colleen that I met in the county.
Notre route du jour, l'A2, prend sa source à Newry dans le comté de Down, l'un des six counties d'Irlande du Nord, situé dans la province d'Ulster, à l'est du pays.
Quelques mots sur Newry, qui est une des plus vieilles villes d'Irlande et qui abrite la première église protestante du pays, l'église Saint-Patrick. En irlandais, Newry signifie le bosquet d'If, ce qui n'est pas anodin. Les peuples celtes voient dans l'If le plus ancien des arbres. Un arbre funèbre à cause de ses baies toxiques que les chefs gaulois, selon Jules César, utilisaient pour se donner la mort. Voilà pour l'If, dont l'anglais fit un éternel conditionnel, porte ouverte aux rêves les plus insensés.
Question. Quel est le point commun entre Jonathan Swift, Pierre le Grand, Lord Tennyson, Charles Dickens, le président des États-Unis George W. Bush et l'auteur du Monde de Narnia, C.S. Lewis? Toutes ces personnalités seraient passées dans l'une des plus vieilles auberges d'Irlande, The Old Inn, la vieille auberge, fondée en 1614 dans la ville de Crawford's Burn, deuxième étape de notre route.
Et maintenant trois villages côtiers. Warren Point, célèbre pour son festival de blues, Ross Trevor et Kilkeel.
À Ross Trevor se trouve la roche Clawmore, un bloc de granit d'environ 50 tonnes qu'on appelle dans le pays la grosse pierre, traduction littérale du mot irlandais Clawmore. Les géologues appellent ce genre de rocher solitaire un bloc erratique. Déplacés par un glacier, ils sont abandonnés lorsqu'ils fond et se retrouvent là, naufragés solitaires, en pays étranger. Mais la légende a une autre explication. Elle y voit l'exploit d'un guerrier, et pas n'importe lequel. Fionn Mac Cuaill est l'un des héros les plus célèbres de la mythologie irlandaise. Le cycle des Fenians, dont il est le principal protagoniste, aurait été écrit par son propre fils, le légendaire poète Oisin. Fionn vit de nombreuses aventures et mène de nombreuses campagnes pour débarrasser l'Irlande des géants, des envahisseurs et des monstres en tout genre. On lui attribue aussi plusieurs bizarreries géologiques. Ainsi, ce serait pour terrasser le géant Roscurret qu'il aurait lancé le rocher de Clawmore sur la colline de Ross Trevor. Mais nous retrouvons Fionn plus tard, car il serait également derrière l'apparition de l'un des sites naturels les plus célèbres d'Irlande.
Nous entendîmes une musique sans pareil, mélodieuse, féerique, que l'on chantait près de nous, et Caltieux dit à Oisin, « Lève-toi et faisons attention pour que la musique des fées ne nous séduise pas. » Ainsi fut fait, dit Fionn, et la nuit passa. Le lendemain de grand matin, nous allâmes au même tertre de chasse, et nous y trouvâmes un géant noir, mal bâti, imposant, énorme, assis devant nous. Il se leva à notre approche, nous souhaita la bienvenue, mit la main dans son sein, on tira deux pipeaux dorés, et nous sonna un air de musique si harmonieux et si charmant qu'il aurait endormi des blessés, des femmes en travail, des champions malades, des guerriers blessés, des héros déchirés par la musique sans pareille qu'il faisait. Quand il eut fini sa musique, il sortit une corne dorée d'un repli caché de son vêtement et me la mit dans la main. Elle était pleine d'hydromel, capiteux, agréable à boire. J'y bus et la mis dans la main d'Oisin. Il y but et la mit dans la main de Kilkeel. Celui-ci y but et la mit dans la main du géant. Quand nous fûmes joyeux et heureux, nous vîmes une grande troupe fière, forte, irritée qui venait à nous dans la montagne. Et l'homme grand me demanda « À qui est cette grande troupe là-bas que je vois sur la colline et qui vient à nous, ô Fionn ?» Je répondis « Un homme qui ne reçoit insulte ni mépris de personne au monde est le chef de cette troupe-là. » « À qui est cette troupe là-bas ? » dit le géant. « Elle a plus de 300 braves et forts guerriers. Le chef a une chevelure aux tresses minces et dorées. » « Ce n'est pas difficile, dit Fionn. Cet homme est le roi des Fenians de Connurt. Il est constant et doux envers ses amis, cruel, ferme, solide au combat. C'est un bras contre lequel n'a jamais tenu bataille, combat, ni duel de ceux qui sont ici. C'est Gol, fils de Morna, fils de Cornac, fils de Neman, fils de Morna le Grand, dit Fionn. » Ensuite, Gol vint vers nous, dit Fionn, et le géant mit la corne dans la main de Gol, et il y but. Puis les vaillants Fenians d'Irlande vinrent vers nous avec le butin de leur victoire, portant les charges de venaison et se vantant de toute leur chasse. Les chefs des Fenians se placèrent près de moi sur le tertre de chasse, et le géant leur donna à chacun plein sa corne à boire, en sorte que tous furent joyeux et heureux. À la lumière du jour, le géant devint bien fait, de belle forme, rayonnant, de manière qu'il fut d'une grande beauté et que, du levant au coucher du soleil, il n'y avait personne qui l'emportât sur lui en bonne mine, apparence, taille, proportion, gaieté, sagesse, éloquence. Il avait l'attitude d'un grand roi et le charme d'un jeune guerrier. « Eh bien, ô roi des Fenians, dit Gol, quel est ce beau guerrier inconnu, autre immobile qui est près de toi ?» Je répondis, dit Fionn, je ne sais pas, car il ne s'est pas nommé à moi. Maintenant, dit le géant, voici mon nom. Je suis Crôn Anar, des fées de Femen.
Plus loin, voici le village de Kilkeel, porte d'entrée vers les montagnes de Morne. Arrêtons-nous-y un instant, car c'est à Kilkeel qu'un certain William Hare, l'un des criminels les plus glaçants de Grande-Bretagne, a fini ses jours. Voici son histoire.
Né à Newry vers 1795, William Hare émigre en Angleterre puis en Écosse pour fuir la justice. Il finit par s'établir à Édimbourg, où il épouse Margaret, propriétaire d'un immeuble dont elle loue les appartements. C'est là que William Eyre rencontre un compatriote, William Burke. Leur macabre association débute par un concours de circonstances. Nous sommes dans les années 1820, dans les quartiers pauvres d'Édimbourg, où les conditions sanitaires sont déplorables. L'un des locataires de Eyre décède d'une maladie, et les deux amis décident de ne pas déclarer son décès et de vendre son cadavre à l'université d'Édimbourg, université où les plus grands spécialistes de l'époque se retrouvent pour faire avancer l'anatomie, tant et si bien que les corps à disséquer viennent parfois à manquer. Burke et Eyre profitent de cette pénurie pour vendre le corps du malheureux locataire au docteur Knox, éminent scientifique. Appâtés par le gain, Burke et Eyre passent à la vitesse supérieure avec la complicité de leur femme et se mettent à tuer les locataires de l'immeuble. Au début, ceux qui sont malades, puis ceux qui sont vieux. Ivres la plupart du temps, et parfois même sous l'emprise de l'opium, ils ne pensent plus qu'au profit. L'inquiétant docteur Knox ne pose pas de questions, il est trop heureux de l'excellent état des malheureux qu'on lui amène. Burke et Eyre assassineront entre 16 et 28 personnes avant d'être dénoncés, puis arrêtés par la police. William Eyre mettra tout sur le dos de Burke, qui sera condamné à mort. William, quant à lui, après une légère peine de prison, échappera de peu au lynchage. Une loi sera votée pour empêcher ces atrocités, l'Anatomy Act. Burke et Eyre entreront dans la légende noire de la Grande-Bretagne. Désormais, on surnommera les trafiquants de cadavres les Burkers. Robert Louis Stevenson s'inspirera de ce fait divers pour sa nouvelle « Le voleur de cadavres ». William parviendra à regagner l'Irlande du Nord et se fera discret jusqu'à sa mort dans le paisible petit village de Kilkeel.
Voilà. C'est ici. Tu vas voir s'il est là ?
Non. C'est à toi d'y aller. C'est toi qui le connais. Moi, je garde la charrette pour l'instant. Hein ? On sait jamais ce qui peut se passer.
Bon, j'y vais.
Ah, c'est toi ?
Ah ouais.
Personne ne vous a vu ?
Non, personne.
Bon, dépêchez-vous. Entrez vite avec le corps et suivez-moi.
C'est loin ?
C'est bon. Laissez-le là. Je m'occupe de la suite. Tenez, c'est pour vous.
Pour nous ?
Mais... Les médecins achètent les corps. Ils en ont besoin pour leurs expériences.
Ah bon ?
C'est moi qui suis chargé de les trouver.
Eh ben bravo, l'ami. Voilà une idée qui n'était pas stupide.
Laissons là Stevenson et poursuivons notre route. L'estuaire de Strongford sera notre prochaine étape. Presque entièrement fermé par la péninsule, cet estuaire s'étend sur 150 km², ce qui en fait l'un des plus grands des îles britanniques.
L'estuaire de Strongford est un site naturel classé où l'on peut trouver de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs comme la bernache cravant, mais aussi des phoques et, plus surprenant peut-être, des requins pèlerins. Ces poissons, qui sont les plus gros au monde après les requins baleines, sont des habitués des côtes irlandaises et il n'est pas rare de les voir s'aventurer à l'intérieur de l'estuaire entre mai et octobre. Géants paisibles, les requins pèlerins se nourrissent de plancton. Leur nom anglais reflète une curieuse habitude. Basking shark signifie le requin qui prend un bain de soleil. Ils nagent en effet parfois très près de la surface et avancent d'un rythme si lent que ça donne l'impression qu'ils prennent effectivement le soleil. Leur nom français vient d'abord de la ressemblance entre leur tête et la capuche des pèlerins. Ce n'est que bien plus tard que l'on découvrira qu'ils parcourent de très longues distances pour migrer. Les requins pèlerins ne sont qu'un exemple parmi les 2000 espèces qui vivent dans le Lore, ce qui en fait l'un des sites marins les plus riches au monde.
Depuis plus de 4 siècles, un ferry permet de traverser l'estuaire. C'est ainsi que 8 minutes plus tard, nous débarquons dans la ville bien nommée de Porta Ferry. À partir de là, après une balade sur les quais, nous reprenons notre route à deux, longeant la côte est de la mer d'Irlande. Nombreux petits villages côtiers, Clory, Ballyhalbert, non loin duquel on trouve Burpoint, le point le plus à l'est de l'île d'Irlande, villages qui ont en commun des maisons de pêcheurs en pierre grise, des casiers à crabes sur le port, des visages aimables, des prairies bordées de murs en pierre sèche, de l'herbe verte abondante à perte de vue. Le village de Mill Isle n'est pas très différent, mais ici nous allons prendre le temps de nous remémorer quelques épisodes de notre histoire qui ont laissé à Mill Isle des traces indélébiles.
En 1938, quelques mois avant le début de la guerre, l'opération humanitaire Kinder Transport permit à plus de 300 réfugiés juifs, pour l'essentiel des enfants, d'être accueillis à Mill Isle. Installés dans une ferme près du village, ces enfants traumatisés, après des séparations souvent brutales, ont alors bénéficié de la mobilisation de la communauté juive de Belfast, mais aussi des immigrés allemands et des églises chrétiennes qui, pour l'occasion, laissèrent de côté les tensions toujours vives depuis la fin de la guerre civile dans les années 20. La ferme, qui fonctionnait sur le modèle des kibbutz, devint une communauté autosuffisante pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes en même temps. Elle ferma ses portes en 1948. Alors qu'ils étaient supposés rentrer dans leur pays d'origine et retrouver leur famille, les pensionnaires comprirent à la fin de la guerre l'étendue du drame qui s'était joué sur le continent. La majorité d'entre eux ne reverra jamais ses proches et devra se construire un avenir en Grande-Bretagne.
Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are falling. Tis you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when hushed and white with snow. Tis I'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so.
Sur la route se trouve la ville de Bangor, station balnéaire située au bord du Belfast Lough, l'estuaire de Belfast.
Le monastère de la ville a été fondé en 555 par Saint Comgall, l'un des premiers saints irlandais. Sa conception de la vie monastique était pour le moins austère. Avant de fonder le monastère, il effectua une retraite avec quelques amis sur une île du Lough Erne. Sept d'entre eux moururent de faim et de froid. À Bangor, les moines se nourrissaient une fois par jour, le soir, seulement d'eau, d'herbes aromatiques et de pain. Les périodes de jeûne étaient fréquentes et longues. Le respect d'un silence scrupuleux, la confession devant toute la communauté et des pénitences sévères étaient le lot quotidien des frères de Bangor. Saint Colomban de Luxeuil, connu pour son ascétisme, fut lui-même formé par Comgall à Bangor. Loin de décourager les foules, Bangor attirait un grand nombre de fidèles venus suivre les offices. L'abbaye devint « Lumière du monde », surnom qu'elle devait à son enseignement allant de la théologie à la géométrie et à la musique en passant par l'histoire. On pense d'ailleurs que la toute première chronique de l'histoire irlandaise provient du monastère de Bangor. Il bénéficiait d'un tel rayonnement, même après son déclin à la fin du Xe siècle, qu'il apparaît sur la célèbre Mappa Mundi de Hereford, magnifique carte du monde telle qu'on le connaissait aux environs de l'an 1300.
À partir de Bangor, la route A2 s'élargit et devient une voie rapide qui mène à Belfast. C'est ici, sur les rives du fleuve Lagan, que s'achève pour aujourd'hui notre périple. Rangeons-nous sur le bas-côté et observons de loin la capitale de l'Irlande du Nord, tout illuminée tandis que la nuit descend.
Yes, I'm walking down your highway, just as far as my eyes can see.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre dans l'ordre « Je suis le chanteur des montagnes », un poème du Nord-Irlandais Joseph Campbell, suivi de la chanson populaire « Star of the County Down » écrite au XIXe siècle et interprétée ici par le groupe The High Kings. Puis, Simon vous a lu un extrait du cycle de Fionn Mac Cool tiré de l'épopée irlandaise traduite par Georges Dautin pour les éditions Terre de Brume. Le Boran solo de Rolf Wagels accompagnait ces mots, suivi de Boys on the Love, Tarbolton, du flûtiste virtuose Matt Molloy. Le passage du voleur de cadavres de Robert Louis Stevenson était extrait de l'adaptation en audiolivre par Alain Pozzioli en 1998, sous le nom Les Tueurs d'Édimbourg. Il était suivi de Dear Irish Boy, air traditionnel, par la violoniste Eileen Ivers. Diana Krall s'est associée aux Chieftains pour une très belle version de Danny Boy, hymne officieux des communautés irlandaises de par le monde. Et nous nous quittons avec Tommy Makem et Liam Clancy qui se font bandits de grand chemin pour The Newry Highwayman.
In Newry town I was bred and born, in Stephen's Green now I lie in scorn. I serve my time to the saddle and trade, but I turned out to be, yes I turned out to be a roving blade. At 17 I took a wife, I loved her dearly as I loved my life. And to maintain her both fine and gay, I took to Robin, I took to Robin on the King's Highway. I never robbed any poor man yet, nor any tradesman did I beset. I robbed the lords and the ladies bright, and robbed their jewels for my heart's delight. I robbed Lord Golding, I do declare, and Lady Mansell and Rover Square. I shook the shutters and bid them good night, and home I went then to my heart's delight. At Covent Garden I took my way, with my dear wife for to see them play. Lord Fielding's gang, they did me pursue, and I was taken by the